ne t'aime pas. Tu es belle et je ne t'aime pas, ô belle, qui aime l'étoile maudite, priant pour son malheur et pour sa perdition. Je te veux, je ne t'aime pas, car m'envoûte, m'ensorcelle, me domine cette fureur indigne. Mais non, je ne t'aime pas. Et infâme suis, car te désire tellement que de moi je m'étonne et que toi tu m'effraies, mais t'aimer. Anna, je ne t'aime pas.
Radio Libertaire 89.4. ce ciel de Nantes, rend mon cœur chagrin. Un matin comme celui-là, il y a bien longtemps déjà, la ville avait ce timbre la phare. Lorsque je sortis de la gare, Nantes m'était alors inconnue, je n'y étais jamais venue. Il avait fallu ce message pour que je fasse le voyage. Madame, soyez au rendez-vous 25 rue de la Grange au Loup. Faites vite, il y a peu d'espoir. Il a demandé à vous voir. À l'heure de sa dernière heure, après bien des indépendances, il me revenait en plein cœur, son cri déchiré de silence. Depuis qu'il s'en était allé, longtemps je l'avais espéré. Ce vagabond se disparut, voilà qu'il m'était revenu. 25 rue de la Grange au Loup. Je m'en souviens du rendez-vous et j'ai gravé dans ma mémoire cette chambre au fond d'un couloir. Assez près d'une cheminée, j'ai vu quatre hommes se lever. La lumière était froide et blanche. Ils portaient habitude immense. Je n'ai pas posé de questions à ces étranges compagnons. J'ai rien dit, mais à leur regard, j'ai compris qu'il était trop tard. Pourtant, j'étais au rendez-vous 25 rue de la Grange au Loup. Mais il ne m'a jamais revu. Il avait déjà disparu. Voilà, tu la connais l'histoire. Il était revenu un soir, et ce fut son dernier voyage, oui, ce fut son dernier rivage. Il voulait avant de mourir se réchauffer à mon sourire, mais s'il mourut à la nuit même, sans un adieu, sans un je t'aime. Au chemin qui longe la mer, à l'ombre du jardin de pierre, je l'ai couché tout des roses. Tranquille, il repose, mon père, mon père.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio libre de la Fédération anarchiste. Et c'est l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie, comme chaque presque mercredi, entre 9h30 et 10h30. Aujourd'hui, on va donc continuer un peu notre démarche de critique de la psychiatrie et nous invitons SNG. Bonjour SNG.
Bonjour Denis.
Je peux t'appeler Natacha ?
Oui, bien sûr.
Eh bien, voilà, donc Natacha, tu produit beaucoup de choses qu'on peut retrouver sur ton blog SNG, blogspot.
Ouais, plateforme un peu obsolète, mais SNG.blogspot. Enfin, c'est un de mes blogs, mais celui qui est le plus axé sur justement le rapport à la psychiatrie.
D'accord. Alors, on va parler aussi un peu de ton activité artistique et pas seulement de psychiatrie, parce que il y a quand même, un lien peut-être un peu, peut-être.
Il y a beaucoup de ponts à faire effectivement entre mon travail création et ce milieu que j'ai fréquenté.
Alors moi, ça m'a, évoqué plusieurs notions, parce que quand j'ai découvert ton blog, j'ai découvert plein de choses, il faut bien le dire, c'est assez foisonnant. Alors, je trouve qu'il y a l'idée de résister, de survivre, d'écrire, de dessiner, slammer, performer, coller des tickets, dans la rue, dans les rues.
Oui, ticket d'insistance.
D'accord, oui. Et donc, c'est par exemple avec des petits messages dessus, voilà. Archiver, faire des vidéos. Alors, quelle est ta démarche artistique à travers toutes ces actes et ces actions? Une transcription du monde, changer les formes des rapports sociaux. C'est la première question.
Merci. Je pense que il s'agit vraiment d'une démarche au sens propre de marcher, un mode d'avancement dans la vie en fait par l'expression artistique, tout support qui m'accompagne depuis toute petite en fait. Ça a été vraiment dès le début de ma vie. Des moyens de communication et de rapport à l'autre et au monde, en fait, parce que j'avais pas forcément le langage parlé. Jusqu'à très tard, j'étais quelqu'un qui parlait très très peu, et à travers le dessin, le modelage, la peinture, puis après d'autres modes d'expression, ça a été vraiment ma façon d'entrer en relation avec les autres. Et donc c'est une démarche essentielle et vital en fait, qui m'a permis de surmonter bien des épreuves et des expériences, et encore aujourd'hui, hein, ça reste mon moyen d'entrer en lien et de pouvoir aussi parler d'expériences personnelles, très souvent, les détourner, les transformer en utilisant tout ce que j'ai à disposition, hein. Il y a beaucoup de bricolage.
Oui.
Et pour revenir à ce blog, SNG, en fait, au tout départ... Alors, c'est devenu une énorme plateforme d'archives, mais c'est vrai que la première acte qui a fondé ce blog, c'était le geste de diffuser mon dossier patient. À une époque, en 2016, je crois, où j'avais commencé à faire le tour des hôpitaux pour récupérer toutes les pièces de mon dossier médical, il y avait une volonté de garder la trace très importante de toutes ces expériences d'hospitalisation en psychiatrie, et de revendiquer aussi... le fait d'avoir survécu à ça et toutes les maltraitances et toutes les choses qui s'étaient passées pas très claires en fait dans les murs des hôpitaux, et où finalement il y avait mon témoignage, celui de tous les autres, mes proches, les soignants. Et quand j'ai collé un peu toutes les pièces, il y avait peu de concordance entre les versions. Donc c'est vrai que ça a été pour moi un geste très fort, et que de mettre en ligne et de rendre public en fait ces archives-là, puis après d'en faire toutes sortes de détournements artistiques, performatif, poétique, graphique, enfin ce qu'on peut trouver. Et après, ça s'est déployé un peu dans plein d'autres domaines autour de mon expérience personnelle.
Parmi ces performances qui sont sous forme de vidéo, j'en ai un peu pour illustrer ce qu'on est en train de dire. Je propose qu'on écoute une de tes créations, en tout cas un extrait, parce que c'est assez long. Le CV de malade.
Ah oui, oui.
Nouvelle actualisation selon remontée mémoire et nouvelles investigations. 1980. Naissance à La Roche-sur-Yon, vers l'heure du goûter. Au tout début de la vie, un larmoiement de l'œil droit dotera Natacha d'un regard erroné sur le monde et surtout sur elle-même. 1989 à 2000. Enfance passée en alternance sur l'herbe, la moquette, le sable de la côte vendéenne. pleure et rit au quart de tour, se perd à bicyclette. 1999, insomnie infantile, l'enfant se saoule au rivotril à dos équestre. Elle monte aussi à cheval avec sa cousine, à l'occasion. 2003, rencontre déterminante avec le peintre québécois Jean Paradis, autodidacte marginal, qui lui ouvre les portes de la peinture créative et de la sculpture. 2003 à 2007, début d'une forme de nomadisme scolaire, où Natacha multiplie les déménagements en cellules fermées et brûle son bulletin de 20 de moyenne en classe primaire, ainsi que la plupart des liens à ses petits camarades. Septembre 2003. Tout premier stage d'observation au CHU de Nantes, au pavillon de la mère et de l'enfant, pédiatrie du quatrième étage sous la houlette des pères. Michel Amar est docteur. Georges Pichereau, qui la suivront dans ses recherches jusqu'à ses 15 ans et 3 mois. Internement sous contrainte, 2003 à 2011. C'est le début d'une longue collaboration avec le monde médical, où Natacha élaborera toutes sortes d'études et d'expérimentations sur le terrain, s'extrayant ainsi de la formation scolaire initiale. La jeune adolescente passe la majeure partie de son temps et de la période dite des vacances scolaires dans le couloir du quatrième étage. À faire rouler ou pas, au pas de course, un dispositif d'alimentation avec lequel elle échange quelques mots et blagues teintées d'amertume. Selon un dispositif thérapeutique. On la sèvre subitement de ses cahiers d'école ainsi que de tout autre objet digne d'intérêt. Ce qui lui permet de mettre en place une théorie autour du rêve éveillé en espace restreint. Ainsi que l'amorce d'une réflexion sur la pyjama attitude dont elle revendiquera ensuite le port à son retour en société. Octobre 2003. Natacha se penche sur l'apprivoisement du vide et de l'ennui et constitue un argumentaire plastique autour de l'art kleptomaniaque. Quelques rares œuvres en résultent aujourd'hui encore dans sa collection privée ainsi que dispatchées dans des services cliniques en France. Elle intervient lors de séminaires séquentiels en boxe alternatif où elle vit et analyse l'agression inter-patient. Morsures et griffes, notamment dans le cadre de chambres partagées, stipulant parfois l'incorporation du reste de la famille, de jour comme de nuit, au chevet du voisin. Contemplation et études poussées des cieux de Nantes, avant et après le bouillon de poule de 18 heures. Durant quelques 5 années, Natacha tentera d'introduire et de conserver un régime végétarien en cellule hospitalière, se confrontant ainsi aux réticences du personnel soignant.
Voilà un extrait donc de CV de malade.
Je m'étais un peu mis des limites avant d'arriver ici de ne citer aucun nom, mais mon CV en synthèse vocale m'a trahi.
Ah oui. on va aborder donc du coup cette question de la confrontation, ta confrontation avec le pouvoir médical. Je vais commencer par lire un extrait de « Asile » de Erwin Goffman de 1968. Si j'arrive. Alors, « Quiconque ne s'est jamais trouvé dans une telle situation d'impuissance ne peut certainement pas concevoir l'humiliation qu'éprouve un homme... en bonne santé, mais placé dans l'incapacité de remplir lui-même les fonctions les plus élémentaires, lorsqu'il lui faut quémander sans arrêt des choses aussi simples que du linge propre ou du feu pour allumer sa cigarette, à des infirmières et des infirmiers qui l'envoient constamment promener en lui disant « Une minute, ma chère », et s'éloignant en l'abandonnant là. Même les employés de la cantine semblaient rallier à l'opinion courante que c'était perdre son temps que d'user de politesse envers les fous et il faisait attendre un malade indéfiniment pendant qu'il discutait avec des amis. Voilà. C'est pour dire un peu donc cette indifférence. Et peut-être, le fait de laisser des personnes livrées à elles-mêmes, assez souvent. peut-être aussi. Sur ton blog, tu fais des récits de témoignages assez fournis, assez nombreux aussi, de ces maltraitances que tu as pu subir dans l'institution psychiatrique. Alors déjà, ton CV de malade révèle que effectivement, c'est depuis longtemps que, enfin, ça fait depuis l'adolescence presque que tu es en comment dire en lien avec cette institution.
Oui, effectivement, je considère que j'ai passé 15-20 années en fait en hospitalisation. Pour la plupart quand même sous contrainte, bon, c'était pas continu, c'était des allers-retours incessants en fait, entre ma scolarité chaotique, comme me dit mon CV, même si elle fonctionnait plutôt bien jusqu'à un certain point où j'étais trop en difficulté à un moment donné quand même, mais il y a eu effectivement des dizaines d'hospitalisations sous contrainte, donc au départ en tant que personne mineure, donc c'était mes parents, le médecin généraliste tout ça, qui prenaient la décision, puis il y a eu le basculement à l'âge adulte, aux fameux 15 ans et 3 mois, où là il y a eu commencé à avoir des hospitalisations HDT à l'époque, à la demande d'un tiers. Et donc ça a été de 2003 à 2017 à peu près. Donc aussi de la Vendée à Paris, il y a eu une migration avec d'autres hospitalisations aussi dans la capitale. Mais effectivement, le texte que tu lisais juste avant me parle énormément aussi dans ce rapport où en plus, moi j'ai eu l'expérience de entre guillemets, passé de l'autre côté les dernières années, là, à partir de 2019, en endossant le rôle de père aidante, donc de revenir dans les institutions avec cette nouvelle casquette d'ex-patiente, donc qui fait partie de l'équipe soignante, et où, malgré tout, j'ai eu quelques épisodes plutôt de problèmes somatiques, où j'ai dû retourner en hôpital pour des soins, et où je me suis retrouvée dans cette peau de patiente hyper stigmatisante, hyper humiliante, et où effectivement tout le pouvoir est retiré d'un seul coup quand on rentre en soins et qu'on n'a plus la main mise sur rien du tout. Et c'est terrifiant en fait de se dire que malgré le fait qu'on a réussi à faire tout un chemin en fait soi-même pour sortir de ce lieu qui quand même nous condamne si on ne prend pas ses jambes à son cou, on peut vraiment y finir et y mourir clairement. Et tout le travail pour pouvoir en sortir et toute l'étrangeté aussi de vouloir y revenir pour pouvoir aller changer les discours et apporter son expérience et essayer de faire bouger les lignes. Mais en fait, dès lors où on se retrouve à nouveau patient, on retombe au plus bactère et où en fait les autres nous maîtrisent, décident pour nous, nous considèrent comme moins que rien. Et c'est hyper, enfin, ça réveille tous les traumatismes aussi, enfin, pour des choses très banales, hein, des interventions chirurgicales ou autres, qui demandent de passer une nuit à l'hôpital, qui devient un enfer, en fait.
Ouais, par exemple, dans un de tes articles, tu évoques le fait qu'on te fasse entrer en toi des différentes choses, des sondes pour te nourrir, des piqûres.
Oui, ce que j'appelle, alors, c'est un mot fort pour traduire ça, mais qu'on viole comme une forme de viol. C'est une intrusion du corps sans consentement en fait qui assez vite a été mis en place dans mon parcours et cette privation de liberté qui est physiquement matérialisée par des tubes dans tous les sens. Enfin, moi j'ai fait des passages en chambre d'isolement, mais ça a été très facile de me maintenir en isolement par toutes ces machines en fait qui m'empêchaient de bouger et de partir puisque j'étais quand même la reine des fugues quand j'étais hospitalisée. Donc on était obligé de fermer les services à cause de moi et on me maintenait dans ma chambre par le biais de toutes ces machines aussi, quoi.
Oui, alors donc c'est des choses aussi que tu exprimes à travers des dessins. C'est-à-dire que tu fais beaucoup de dessins, de bandes dessinées. Voilà. Et donc tu te représentes parfois avec je sais plus comment ça s'appelle. C'est
une perche.
Oui. Voilà, une perche. Et toujours comme si le dispositif médical était attaché encore à toi et inversement.
C'est vrai que en fait la bande dessinée ça a été une des premières aussi surface pour pouvoir raconter justement les expériences difficiles de mon parcours en psychiatrie. Et ça s'est passé assez tard, enfin, c'est vers 16 années où j'ai commencé le blog, où en fait, dans le cadre de mes études, il y a quand même un prof qui a remarqué ces petits dessins dans les carnets et qui, au-delà de tout ce que je pouvais faire autour, m'a dit « tu devrais vraiment continuer ça ». Et j'ai commencé à raconter mon parcours à travers la BD, même si depuis toute petite, je tenais des journaux intimes, c'était pas des choses que je partageais. Et ces dessins-là, donc, ils sont souvent assez sombres, mais il y a toujours une trace aussi d'humour noir et de revendication, d'absurdité dans les situations dans lesquelles je me suis trouvée et se trouvent la plupart d'autres amis rencontrés dans ces établissements. Et ce qui est assez étrange, c'est que ce personnage, qui finalement est une représentation de moi, avec ce style un peu raté, enfin, mes dessins sont complètement disproportionnés, il n'y a pas vraiment de logique, quoi que ce soit, c'est vraiment des choses très très spontanées. Et oui. A évolué avec moi, en fait.
Oui, il n'y a pas vraiment une perspective parfaite.
Absolument pas. Et pour autant, j'ai réussi à entrer dans beaucoup d'écoles d'art. Oui. Je dis souvent que c'est plus facile d'entrer dans des écoles d'art que dans des institutions où il faut venir sur dossier, des fois, pour se faire soigner avec des listes d'attente de fous. Mais ces dessins, en fait, le personnage qui représente à peu près moi, a évolué aussi avec, justement, mon évolution physique, psychique et cette perf son nasogastrique qui m'a suivi pendant toutes les premières années a mis plus de temps à disparaître que dans la réalité. Il y avait un décalage aussi où mon personnage évoluait avec un petit retard à chaque fois, même le fait d'avoir repris du poids par ce biais. Enfin, je suis restée un espèce de personnage tout maigre plus longtemps que ce personnage. Et il s'est passé la même chose pendant le Covid où finalement mon personnage a porté le masque plus longtemps que moi. Enfin, il y avait quand même ce jeu un peu où petit décalage entre le personnage BD et moi-même, mais qui évolue et je pense que les gens qui suivent voient aussi cette chose-là qui transformation en fait.
Donc tu as une formation artistique parallèlement à tes séjours en psychiatrie et tes allers-retours. Il y a tu as suivi un parcours artistique que tu as maintenu. Je sais pas exactement comment.
Ouais, tant bien que mal, oui. Avec beaucoup d'absence, et c'est ce que je me disais aujourd'hui où je suis très très souvent en conflit avec les institutions et aussi beaucoup les institutions scolaires où même dans ces établissements d'art, on m'a reproché d'être trop libre et trop artiste et de vouloir faire de rendre des dossiers qui étaient trop en dehors de ce qui était attendu, et même dans ce milieu-là, finalement, j'y ai pas trouvé ma place. Et justement, j'en ai eu des cours de dessin, et quand on voit aujourd'hui la façon dont je traite les lignes d'horizon et tout ça, enfin, je me suis complètement émancipée en fait de ça, et, oui. Et ça a peut-être été l'espace pour pouvoir commencer à produire, mais c'est vrai qu'assez rapidement, j'étais pas d'accord non plus avec ce formatage-là, et puis de toute façon, j'étais pas en état. J'étais très très malade à l'époque et je me souviens pas de grand chose de mes cours. J'ai des vagues souvenirs d'avoir fait du tricot sous des tables ou des grandes fresques qui m'ont aussi conduit au burn-out et à des hospitalisations juste après. Donc, c'est vrai que ça a été important de pouvoir accumuler pas mal de techniques, mais après, c'est plus quand je suis entrée après cette école d'art à l'université que là, il a été plus possible de développer un projet personnel, donc vraiment qui parlait de moi, plus que d'apprendre des techniques d'art appliquées, et où là, effectivement, ça a été le début de toute cette explosion intime. Et puis après, tout le côté action militante et la scène publique, le slam, où j'ai commencé à avoir un dialogue avec les autres aussi par le biais de ces pratiques.
Oui, c'est-à-dire que aussi, auprès d'un public, tu as une... c'est ta voix qui est l'instrument de ton expression.
Ouais, c'était une étape très importante dans mon parcours. Comme je disais, pendant pas mal d'années, j'ai presque pas parlé. Donc j'écrivais beaucoup. Et quand j'ai commencé à monter sur scène pour justement raconter souvent des bribes quand même de ce parcours-là, hein, de psychiatrie, il y a eu un vrai retour, un vrai écho en fait au public. Aussi une bienveillance, une ouverture d'esprit où ça a été complètement accepté et même accueilli avec plutôt intérêt et reconnaissance. Donc ça a été un moment très important aussi de recréer des familles substitutives à travers justement les scènes de slam et puis ensuite les scènes de danse aussi. Et effectivement, mon débit de parole très rapide c'était aussi ce trop plein, en fait. Je pense que je suis passée du rien au trop. Et quand je parle sur scène, ça va à toute vitesse. Enfin, les gens comprennent la moitié des mots parce que voilà, c'est trop débordant. Il y a des gestes aussi. Enfin, c'est quelque chose, quoi. Et effectivement, c'est un réel soulagement de pouvoir avoir un public qui m'écoute, parce que pendant des années, ma parole n'a eu aucune valeur et tout ce que je pouvais dire n'était pas pris en considération. Et quand je suis sur scène, en fait, il y a vraiment une grande différence où les gens se taisent et m'écoutent, ce qui fait toute la différence. Enfin, c'est un moment très privilégié pour moi pour pouvoir m'exprimer, en fait, trouver l'espace et le moment pour le faire.
Eh bien, justement, on va écouter une de tes productions, une de tes œuvres. Alors, il faut que je retrouve. Ça doit être dans sur mon bureau. Ça s'appelle L'ambulance générale.
Ok.
Charme mon vécu, en partie le leur. J'ai plus côtoyé les cures de cam et les rechutes de cheveux, poils de chatte, que le plein flot de la picouse et les yeux injectés de ces types et meufs à volonté dissoute, immolés dans l'alcool, les triples sexes contre du blé. J'ai pioncé en bordure du pieu de bohémiens qui schlinguent la misère, atterris par mégarde ou par dépit dans les douves de la paix à chuter, qui ne parlaient pas la langue mais qui crevaient la dalle et terminaient les plateaux de saillantes anorexiques mineures. Échoué sur le chariot entrebâillé frugal du couloir de pédopsie. Je slame en blouse, en masque et en charlotte, au chevet des patients désaxés par les médocs. Mon flot, cela coule tranquille entre deux frictions. Je déboîte du texte avant que ne débarquent les toubibs de service. Je raconte ma life aux chauves, aux toxicaux, bon rythme métrique, le jargon qui convient au sermon des appels d'Hippocrate. L'ambulance générale. L'ambulance générale. L'ambulance générale. Je regarde, à l'aise, en tailleur, lance des cieux d'hiver, à la lucarne scellée de l'époustouflant mauve. Sous les sirènes, des hélicos montent au blanc, le toit du bloc à 18h, on soupe. En file indienne s'effondre des filles, pas plus lourdes que des sacs à croquettes, on leur file des doses d'étalons, en tablette, le coup du bar à cocktail pseudo-anxiolytique. Je slame en blouse, en masque, et en charlotte, au chevet des patients désaxés par les médocs. Mon flot s'accoule tranquille entre deux frictions. Je déboîte du texte avant que ne débarquent les toubibs de service. Je raconte ma life aux chauves, aux toxicaux, bon rythme métique, le jargon qui convient au sermon des appels d'Hippocrate. L'ambulance générale. L'ambulance générale. L'ambulance générale. Qui plante la panacée des planches à roulettes, des perfacataires qui pompent sous prescription, post-scriptum des effets secondaires à blémir debout. Tout ça passé sous silence en tube aseptique. Les cellules survolent des veines explosées au phosphore. Mais les murs sont mats tabous sur des lits à grillage. L'épargne tutelle à la chaise électrochoc. Les rasades de choc à pic de 7 à 8 à 10 aussi. Quelques briquettes hyper caloriques démoulées en pot-pot. On se défrite au monde social, fricoter les hyènes et les chétanes. Sous le blaze MDPH, sous la loque handicap, impasse, muraille, expansée, l'infirme déphasé, endurci de l'époque et de cloques post-traumatiques. Je slame en blouse, en masque et en charlotte, au chevet des patients désaxés par les médocs. Mon flot se la coule tranquille entre deux frictions, je déboîte du texte avant que ne débarquent les toubibs de service. Je raconte ma life aux chauves, aux toxicaux, bon rythme métique, le jargon qui convient au sermon des appels d'Hippocrate. L'ambulance générale. L'ambulance générale. L'ambulance générale.
L'ambulance générale, SNG. Et beaucoup de choses encore à dire. Par exemple, la liste de ce que tu pouvais avoir comme pendant que tu étais sous traitement, enfin tu l'es toujours d'ailleurs peut-être, de ces médicaments que tu avais à prendre. Alors, je cite, l'amictal 50 mg, un le matin, un au coucher, l'élo 1 le matin, l'iocéral 10 mg, 1,5 le matin, 1,5 à midi, 1,5 au coucher, phytosoya 2 au coucher, rivotril goutte 8 au coucher, séroplex 15 mg, 1 le matin, tardiféron 80 mg, 1 le matin, tertian goutte 20 au coucher, Zyprexa 7,5 mg, 1 au coucher. C'était à une certaine époque une ordonnance pour une durée de 1 mois.
Ouais, à une époque où en plus, on ne le voit pas sur l'ordonnance, mais j'avais le poids d'une enfant de... Ben, je devais faire 37, 39 kilos, quoi. Donc d'accord. C'était d'autant plus grave et problématique d'avoir ces doses-là et cette quantité de médoc sur une ordonnance, alors que je devais être encore adolescente. Et alors, ouais, on a un peu de tout, hein, traitements hormonaux, traitements épileptiques, traitements anxiolytiques, traitements pour le craving, machin, enfin, il y a des choses que je ne savais même pas, enfin, la plupart, on ne m'a jamais expliqué d'ailleurs pourquoi ils étaient là, et puis je ne pouvais plus rien faire, hein, clairement. Enfin, il y a eu déjà dans mes études, justement, une orientation très tôt dans les arts, donc j'avais des cours quand même qui demandaient une rigueur, une finesse... de gestes visuels, et en fait, je voyais flou, j'avais les bras qui tremblaient, donc je ne pouvais pas rendre mes travaux du tout, et je m'endormais de toute façon, parce que j'étais complètement endormie, j'avais froid, donc en fait, c'était vraiment très très compliqué l'école, et puis bon, après c'était l'hôpital, quoi, mais ces espèces de traitements de cheval m'ont bien bien pourri, et ont développé des addictions, en fait aussi, des dépendances, pour pouvoir dormir notamment, puisque moi, mes traitements, ils ont commencé dès l'âge de 11 ans, en fait, pour des problèmes de sommeil, un peu les premiers symptômes visibles de la part de mon entourage. Donc, je me suis tapé du Rivotril à cet âge-là, en goutte, le soir, alors que c'est même plus autorisé maintenant. Hein. Donc, c'est vrai qu'actuellement, je dors toujours pas naturellement, et c'est lié à toute cette espèce de mise en place de traitements avant même l'adolescence, quoi, dès l'enfance. Merci les médecins et la famille.
Alors, les agressions, elles ne sont pas seulement physiques ou chimiques, elles sont aussi parfois un peu morales, comme cet appel téléphonique de la MDPH que tu as reçu une fois. Oui, donc... est-ce que tu peux détailler un peu cette histoire-là, ou est-ce que je peux lire des extraits de...
Oui, parce qu'en fait, c'est des appels que j'avais retranscrits sur une vidéo YouTube qui a été supprimée à la demande d'une association qui m'a appelée en anonyme, comme faisait la MDPH il n'y a pas si longtemps que ça.
Oui.
Donc elle n'est plus accessible, cette vidéo, mais elle durait plusieurs heures.
Ah oui.
Qui était un montage, en fait, de plusieurs appels, mais qui ont à chaque fois duré plusieurs heures sous couvert d'anonymat de la part de la MDPH pour me poser des questions sur ma vie quotidienne, intime, professionnelle. Mes problèmes, mes handicaps, etc.
Sans dire que c'était la MDPH.
C'était un appel anonyme, mais qui se présentait comme la MDPH, mais j'ai eu au bout d'un moment un nom et un prénom, mais ça a été très très compliqué.
D'accord.
Et c'était des appels qui n'avaient pas de justification, puisque la MDPH n'a pas le droit de faire ça a priori. Et aussi, ce qui m'étonnait énormément, c'était le temps passé avec moi, quand on sait tous les dossiers en attente et toutes les personnes. Tout ce qu'ils ont à travailler, comment ils pouvaient se permettre de prendre autant de temps au téléphone pour poser toutes ces questions. Donc assez rapidement, comme je fais souvent quand un truc m'étonne, je l'enregistre pour pouvoir essayer de comprendre après.
D'accord.
Mais donc ce sont des échanges qui se sont passés sur plusieurs mois et qui arrivaient à des horaires très improbables aussi, genre 19h un soir ou un samedi. Donc pas du tout des horaires de bureau des agents de la MDPH non plus. Donc tout ça était quand même très étrange. Et bon, j'ai appris plein de choses sur le fonctionnement de la MDPH. Visiblement, la personne y travaillait vraiment parce que j'avais des détails très précis sur l'organisation de cette structure. Mais il y avait quand même cette chose où qu'est-ce qu'ils allaient faire de ces données. Et tout à fait, il y avait quand même une forme de chantage à l'information où peut-être mes droits allaient être ensuite dépendre au fil de ce que je pouvais répondre dans ces échanges. Donc j'ai décidé à un moment de rendre ça public parce que j'ai demandé par mail des explications que je n'ai pas eues.
Et cet échange de mails que tu as publié, en fait.
Ah oui, oui.
C'est ça. Alors, juste un extrait de cet article que j'évoquais tout à l'heure et qui s'intitule « Ce que la psychiatrie a délimité des lignes de mon corps ». Alors, c'est juste un extrait, à moins que je ne puisse plus le lire, puisque j'ai un problème de format qui fait que... Oui. Non, ben, je vais pas le... Voilà, l'hôpital institue une fabrique des proies faisant de nous, et des femmes en particulier, des cibles ou victimes faciles, des profils silhouettés par l'usure et la vulnérabilité palpable qui sécrètent la maladie, l'isolement, la violence communément intégrée, des humaines déconnectées de leur corps, inconsidérant leurs émotions, des sauve-la-peau psychiatrisés et que l'hôpital a relâché en pâture en leur subtilisant carapace, film protecteur et âme d'organe. Et en fait, voilà, ça me rappelle aussi quand tu évoques dans un dessin où en été, les soignants partent en vacances et laissent mettre dehors certains patients qui se retrouvent parfois en plein soleil alors qu'ils ne sont pas préparés à recevoir tous ces rayons ultraviolets. Il y a cette espèce d'abandon qui est, et aussi cette vulnérabilité qui est exposée à la société tout entière, presque, je dirais.
Oui, bah, je pense que ça s'est encore bien aggravé depuis l'époque où j'en parlais, puisque les hôpitaux ne gardent plus les patients le temps qu'il faut. Enfin, s'il faut qu'ils les gardent, parce que ce qui se passe à l'intérieur n'est pas toujours très juste et beau, mais c'est vrai qu'on a une accélération de ce phénomène de mettre dehors le plus rapidement possible les patients. Quand dans mon cas, c'est vrai que j'ai eu des hospitalisations très longues quand j'étais jeune, de plusieurs mois, où la déconnexion est telle que quand on sort, on ne sait plus rien faire. Enfin... Donc le choc est extrêmement violent. Où, déjà au niveau de l'actualité, on ne sait plus du tout ce qui se passe dans le monde, mais il y a aussi de réapprendre toutes les choses du quotidien, voire de les apprendre pour une première fois, puisqu'on n'a pas vécu la période où ça aurait dû avoir lieu. Enfin, moi, c'est vrai que je n'ai pratiquement pas vécu mon adolescence et je suis arrivée à l'âge adulte vraiment très, très à la ramasse, quoi. Je ne savais rien faire en autonomie, puisqu'on m'avait fait toujours justement infantiliser et faire les choses à ma place à l'hôpital. Donc c'est vrai que ce moment où on ressort de l'hospitalisation, et dans mon cas, très souvent, il n'y avait pas forcément d'accompagnement, ça courait le risque de revenir assez rapidement en fait, à l'hôpital. Enfin, à l'époque où c'était encore possible d'être hospitalisé sans des listes d'attente de fou, c'est vrai que moi, je sortais 15 jours et je retournais à l'hosto avec tout le bénéfice qu'eux considéraient que j'avais obtenu en soins était disparu en quelques jours, quoi. Et il y a ce truc de vulnérabilité qui est d'autant plus important. Ce que je dis dans cet article, c'est vraiment le fait que justement notre corps ne nous appartient plus à l'hôpital et où on nous infiltre des médicaments, des perfusions, on nous palpe, on nous observe, on nous examine sous tous les coutures, on nous perturbe dans notre sommeil, on intervient dans notre chambre à tout moment sans prévenir. On nous parle, on nous parle pas, c'est pas nous qui décidons. Et donc il y a tout un tas de violences et d'intrusions en fait qui, dans mon cas, faisaient partie de mon éducation, puisque j'étais quand même dans une construction de moi à l'adolescence, voire même à l'enfance, puisque ça commençait très tôt, où j'ai pas eu les matières de base en fait pour me construire et savoir me protéger des prédations extérieures, de la limite à poser avec le monde, avec les personnes. Et quand je suis sortie de ça, ben, j'ai commencé à avoir des relations sociales et à rencontrer des gens, mais très tardivement dans ma vie. Et j'avais aucune barrière de protection. En fait, je me mettais en danger, mais de manière extrême. Je me baladais la nuit, inconsciente. Je fais des mauvaises rencontres. Et tout ce qui va être de relations intimes, en fait, j'ai aucune base en fait, de savoir quelles sont mes limites, puisqu'elles ont tellement été bafoué par l'institution psychiatrique que je ne sais pas à quel moment ça c'est ok, ça c'est pas ok, ça se fait pas, ça c'est, enfin le consentement clairement, l'hôpital le détruit en fait, le lamine, puisque à aucun moment on nous le demande, on nous l'apprend et où on nous impose des gestes qui après nous dans la vie quotidienne on n'a pas cette structure, donc on n'est pas du tout protégé en fait.
Il n'y a plus d'idée de ce qui est acceptable ou pas.
Oui, il y a même la normalité, en fait, normaliser en fait des actes violents, intrusifs et ouais, de la violence, voire du viol. Enfin, y a vraiment cette intrusion du corps qui après fait que, et en plus dans mon cas, avec un fonctionnement qui de base n'a pas intégré les normes sociales, donc c'était la totale, quoi. Enfin...
Alors, on va parler de ton expérience en tant que médiatrice de santé père. Après avoir écouté un petit morceau de musique composé par Arnaud Le Piano. Du moins un extrait. Nous retrouvons, donc c'est toujours l'émission L'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie, et nous recevons aujourd'hui SNG et donc Natacha. Natacha, donc tu as eu une expérience de médiatrice de santé père, tu as fait une formation pour ça.
Oui.
Et donc moi j'étais tombé sur un article du 5 juillet 2022 tiré de l'information psychiatrique qui m'a été transmise par le CRPA, le Cercle de réflexion et de proposition sur la psychiatrie, association de défense des droits des patients en psychiatrie, et qui et donc je me suis amusé à faire un petit résumé mais que je ne vais pas lire en entier, mais qui va évoquer juste certaines choses. C'était une enquête qui a été réalisée par le Centre collaboratif de l'Organisation mondiale de la santé, le CCOMS, et qui promeut la participation des ex-usagers en santé mentale dans les services de soins psychiatriques comme médiateurs de santé père ou père aidant professionnel. Dans différents programmes expérimentaux en Australie, en Écosse, aux États-Unis, au Royaume-Uni, et puis dans la mise en œuvre de programmes aux États-Unis et au Québec, par exemple. En France, les premiers pères aidants professionnels en 2011 ont été intégrés à des équipes médico-sociales intervenant auprès de sans-abri atteints de troubles psychiques graves. Dès le début, les professionnels de santé ont été réticents à accueillir dans leurs équipes ces professionnels d'un nouveau genre. L'idée, donc, c'était de, dans ce contexte de formation, d'analyser la portée des et les limites de l'intégration des médiateurs et médiatrices de santé pair au sein des équipes de soins. Et les questions qui sont posées, c'est qu'apprennent-ils ou qu'apprennent-elles au cours de leur formation? Comment construisent-ils, elles, leur identité professionnelle? Se considèrent-ils-elles comme des soignants? Quels sont, ont été les obstacles à leur intégration dans les équipes? Voilà, donc c'est une enquête qui était autour de ça. Par rapport à ce contexte, quel a toi été ton parcours?
Déjà, c'est vrai que même cet historique de la naissance de la pérédance, il est assez contredit par les gens de Marseille.
D'accord.
Qui, a priori, ont commencé la pérédance bien plus tôt que ce qui s'est passé ensuite avec le CCOMS de Lille.
D'accord.
Qui, est, par contre, a créé cette formation à laquelle j'ai participé, donc licence médiateur santé pair avec l'Université Paris 13. Donc, c'est eux qui la coordonnent et qui nous suivent, qui vont rencontrer les institutions pour préparer notre accueil. Donc, c'est aussi ça qui labellise le médiateur santé pair ou MSP, ce dont je ne me revendique plus aujourd'hui. Je dis plutôt pair aidante, qui est plus généraliste, parce que j'ai eu quand même quelques désaccords avec cette formation, avec le suivi aussi de ces parcours ensuite. Et puis, de toute façon, parce que eux ne me sollicitent pas et ne me prennent pas en considération dans toutes leurs actions de communication depuis un certain temps déjà. Donc je pense qu'il y a quand même des choses qui, dans mon discours qui ne leur va pas, qui n'est pas assez lisse, qui n'est pas assez alignée à leur idée aussi de la psychiatrie où tout va bien. Donc c'est vrai que cette formation, je l'ai faite en 2019, où j'avais, ça se passe par une candidature spontanée en fait, où on envoie un peu une lettre de... On parle un peu de notre parcours de rétablissement et de notre volonté de revenir dans les institutions pour justement parler de notre expérience de la psychiatrie, qu'on soit concerné par des troubles, par des addictions, par des choses qui nous ont emmenés en fait dans ces institutions. Et bon, moi, ça n'a pas été une entrée directe parce que j'avais déjà postulé 2 ans plus tôt et où en fait, j'avais pas été prise, notamment parce que j'étais encore quand même très en colère. Dans mon discours très critique et que ça avait un peu fait peur aux équipes qui m'avaient reçu en entretien. Ces mêmes équipes qui m'ont embauchée 2 ans plus tard dans le même entretien avec les mêmes personnes, donc c'était assez étrange. Mais finalement, entre-temps, j'ai fait du slam, j'ai appris à modérer mon discours et à être plus posée aussi. Et je pense que ça m'a vraiment aidée à présenter mon rapport justement aux soins en psychiatrie de manière plus acceptable. Mais le fait d'entrer dans une institution avec justement aussi toute une activité militante, c'est pas du tout simple. Il y en a beaucoup qui se sont cassés la figure et moi j'ai quitté pas mal d'institutions à cause de justement ce désalignement de valeurs entre ce qui se passait et à quel point je pouvais agir sur ça. Donc c'était assez difficile. Mais donc en 2019, j'ai commencé cette formation à Bobigny et en parallèle, j'étais donc en poste sur un établissement de soins psychiatriques, donc une forme d'alternance qui dure une année à peu près. Et après, 9 mois, mais il y a souvent un peu de retard, donc ça prend un peu plus de temps. Il y a eu aussi le Covid dans mon cas, donc on a eu un peu de complications aussi. Et après, normalement, c'est quelque chose qui est financé donc, par l'ARS. Il y a une bourse pour la formation, donc nous, on n'avance pas d'argent. Et pour financer le début, les premières années du poste dans l'institution. Donc c'est comme un appel à projet où les institutions répondent et peuvent accueillir un pair aidant en formation poste. Et après, ils s'engagent à pérenniser le poste, donc à financer le poste à la suite des 3 premières années, je crois. Mmh.
D'accord. Alors, donc, tu as exercé cette profession en différents endroits?
Oui, je l'exerce toujours d'une certaine façon, mais j'ai eu beaucoup... D'ailleurs, c'est ce que me disait le CCOMS que j'ai rencontré il n'y a pas si longtemps, la coordinatrice, qui me disait que mon parcours était assez rare, puisque... J'ai changé beaucoup d'établissements en peu de temps.
D'accord.
Et j'ai été recrutée en candidature spontanée, ce qui est très rare parce qu'en général, c'est les hôpitaux qui font des appels. Et c'est vrai que c'est assez peu fréquent en fait, de changer d'établissement une fois qu'on y est installé. Mais comme j'ai eu quand même des difficultés à chaque fois, j'ai fait un peu du nomadisme là aussi. Mais mon parcours qui est quand même assez diversifié. Et puis, je suis quand même assez au clair avec mon rapport à mon parcours, à mon discours sur le soin et mes expériences. Donc, je pense que ça rassurait pas mal aussi sous ce profil-là. Mais effectivement, il y a eu quand même des expériences pourries. Et puis de la stigmatisation forte aussi sur ce que j'étais. Je restais en fait quand même comme résidu de patiente avec ces handicaps visibles comme invisibles et des aménagements impossibles aussi dans mon poste. Et encore pas si tard, la non prise en considération même de toute cette casquette artistique avec pas mal de promesses qui n'ont pas pu finalement mettre en place des choses sous ma responsabilité. Et donc c'est pas simple du tout en fait de trouver sa place sous cette casquette là et certes j'ai appris plein de choses en passant de l'autre côté un peu du miroir, mais avec quand même pas mal de déceptions, beaucoup d'épuisement à essayer de faire bouger les choses, les pensées, les actes, et puis amener cette créativité intense qui chez moi m'habite et m'a vraiment sauvé de la psychiatrie. Bah c'est pas si simple que ça.
Oui, en tant que enfin, il y a le terme de médiateur, médiatrice. Est-ce qu'il y avait chez toi une volonté aussi un peu de changer l'institution ou de transformer les rapports dans l'institution, ou même de à plus long terme, enfin de manière utopique, de changer la psychiatrie?
Bien sûr, bien sûr. Après, je pense que j'y revenais pas. Sinon, c'était vraiment la raison pour laquelle je revenais en psychiatrie, parce qu'il faut quand même le faire, de revenir après un parcours comme le mien. Oui. Certains disent que c'est quand même très masochiste, et c'est quand même assez étrange de revenir dans le lieu de tous les traumatismes, toutes les violences et l'humiliation. Mais il y avait cette volonté, effectivement, de parvenir à ma maigre mesure à changer les lignes. Mais de mon statut de père aidante, c'est complètement impossible, en fait.
Impossible, enfin, oui.
C'est un mirage que de dire qu'on va m'écouter, qu'on va prendre en compte mon regard sur les choses, qui est souvent très décalé, en fait, très alternatif aux habitudes, aux normes, aux formations médicales. Et pourtant, enfin, quand j'ai pu, dans de rares moments, l'exprimer ou le partager à d'autres patients, bah oui, c'est des nouveaux chemins à prendre. Donc on voit bien qu'il y a... Ça offre plein d'alternatives aussi. Et aussi, je ramène l'art, je ramène tout un tas de choses.
Tu encouragerais d'autres personnes, de pères aidants, à continuer à faire de la pères aidance dans les institutions?
Je pense que l'idée est hyper intéressante, oui, et belle et utopique. Et si vraiment on arrivait à considérer la parole des patients et leur expérience au même titre que celle des soignants et que les patients, en fait, cette horizontalité fictive, mais qui, dans l'idée, est très intéressante et changerait vraiment les choses. Mais alors peut-être qu'à force d'intégrer des pères aidants dans les équipes, il va y avoir une assimilation plus facile et puis une valorisation vraiment de ces savoirs, de cette posture-là, ce regard sur le soin et à partir de l'expérience. Mais je sais que dans certains cas, hein, j'ai des collègues qui s'en sortent quand même mieux et dans des équipes plus ouvertes et où il y a plus de responsabilités, plus de valeurs données à leur rapport justement aux soins et à la vulnérabilité et à la condition des patients, à leurs droits, etc. Mais ça reste quand même des minorités, j'ai l'impression, et que ça va prendre des années et des années. Et quand on voit tout ce qui se passe en parallèle dans le soin, l'hôpital public, la privatisation, etc., on a du mal à croire qu'on va y arriver, en fait. Mais on a beaucoup de barrières, et encore très récemment, on s'est fait attaquer par la haute autorité de santé ou par une lettre auquel je n'ai pas pu prendre part, mais je sais que c'est vraiment en ce moment que ça se passe. Il y a plein d'échanges de courriers autour d'une attaque justement de la pères aidants qui n'a pas de cadre d'activité. Ils considèrent qu'on reste des personnes très vulnérables, influençables, alors qu'en fait, il n'y a pas beaucoup plus dangereux que les responsabilités psychiatriques qu'ont les médecins à décider de notre avenir, en fait. Donc c'est beaucoup plus grave ce qui se passe en psychiatrie depuis des années que ce que nous, on peut agir. Et, enfin, en tout cas, c'est des discussions qui portent beaucoup de guerre, de clans et puis de résistance. Enfin, moi, j'ai quand même travaillé dans des établissements très ouverts qui se revendiquent aussi de la psychothérapie institutionnelle. Oui. Et même dans des établissements comme ça, la pères aidants déjà est méconnue, mais n'est pas non plus accueillie en tant que telle comme un outil de travail. Enfin, donc c'est quand même triste et ça, c'est relativement inquiétant aussi. Enfin, ça veut dire que le milieu médical continue de vouloir garder son autorité et son pouvoir pleinement, en fait.
La psychothérapie institutionnelle, comme la péniche, la Damante, par exemple, qui t'a fait aussi donner l'idée aussi de produire un petit objet de vidéo, la démission.
Oui, c'est récent. J'ai quitté ce dernier poste en fait où je travaillais sur ce lieu qui a fait pas mal parler de lui ces derniers mois. Et pareil, enfin, on pourrait croire que c'est quand même le lieu idyllique. Enfin, en tant que patient, atterrir sur une péniche pour ses soins, c'est quand même. Enfin, moi, j'ai jamais connu ça et je pense que c'est quand même rare. Et il y a beaucoup de points positifs sur ce lieu, mais il y a aussi beaucoup encore de barrières et de fermetures et d'espaces clos au sein de ce lieu. Donc là aussi, finalement, on m'a fait croire que avec cette casquette artistique MSP, j'allais pouvoir faire des choses.
Des choses positives. Enfin, tu en as fait des choses. Tu as fait de la radio, tu as fait des animations artistiques que les gens devaient apprécier, j'imagine.
Oui, à une mince mesure par rapport à ce que
parmi les patients,
on m'avait un peu quand même proposé de créer mon propre espace radio.
Et d'accord.
Mais tout ça n'a pas eu lieu. Oui,
ça n'a pas vraiment eu lieu.
J'ai eu un espace de parole, mais qui a été extrêmement compliqué dans ce collectif-là de l'atelier radio. Et j'en ai beaucoup souffert aussi. Et encore, ce problème d'espace de parole était très, très compliqué. Et dans tous les cas, ça restait un espace clos où les personnes qui l'animaient, en fait, dirigeaient à peu près tout. Donc, c'était une expérience intéressante, même au niveau très pratique, de mettre en place un atelier, utiliser les appareils. Mais dans le fait d'ouvrir le champ sur des nouvelles formes de faire du son et accueillir la parole de tous, en fait, ça n'a pas... Moi, j'y ai pas trouvé du tout mon compte, quoi.
En tout cas, moi, j'aime beaucoup toute cette foison de ce que de ces œuvres que tu produis. Et je te remercie d'être passé à l'entonnoir pour nous parler de tout ça.
Merci aussi. Enfin, je suis très touchée parce que tu les as vraiment explorés finement parce que toutes les interventions font état de sujets très importants pour moi et je vois que tu les as regardés avec vraiment une grande attention à l'évidence. Donc, merci.
Eh bien, ainsi se termine pour aujourd'hui l'émission L'Entonnoir. Nous vous disons à la semaine prochaine. Oh, et puis allez, je ne résiste pas à l'envie de passer un extrait de démission.
La directrice générale des hôpitaux de Saint-Maurice, le représentant des usagers des hôpitaux de Saint-Maurice, la chef du pôle médico-technique des hôpitaux de Saint-Maurice, le président de la commission médicale d'établissement des hôpitaux de Saint-Maurice, la coordinatrice générale des soins des hôpitaux de Saint-Maurice, la référente handicap des hôpitaux de Saint-Maurice, la direction des ressources humaines des hôpitaux de Saint-Maurice, le pôle Paris-Centre des hôpitaux de Saint-Maurice, la cadre coordinatrice du pôle Paris-Centre des hôpitaux de Saint-Maurice, le psychiatre et médecin-chef du pôle Paris-Centre des hôpitaux de Saint-Maurice, l'infirmier cadre du centre de jour L'Adamant du pôle Paris-Centre des hôpitaux de Saint-Maurice, la psychiatre et médecin responsable du centre de jour L'Adamant du pôle Paris-Centre des hôpitaux de Saint-Maurice, toute l'équipe du centre de jour L'Adamant du pôle Paris-Centre des hôpitaux de Saint-Maurice, tous les pères aidants des hôpitaux de Saint-Maurice et des Murets, le représentant désigné des organisations syndicales CGT et ergothérapeute sur le centre de jour L'Adamant du pôle Paris-Centre des hôpitaux de Saint-Maurice, le réalisateur du film Sur l'Adamant, le responsable du séminaire Care et architecture, chaire de philosophie à l'hôpital sur le centre de jour L'Adamant du pôle Paris-Centre des hôpitaux de Saint-Maurice, mon médecin généraliste. Paris, le 26 septembre 2023. Objet, démission. Madame, Monsieur, j'ai décidé de démissionner de mon poste de père aidant professionnel en CDI sur l'Adamant, centre de jour dépendant du pôle Paris-Centre et des hôpitaux de Saint-Maurice, activité que j'exerçais parmi vous depuis le mois de juillet 2022. C'est avec tristesse et sens du devoir, et selon le principe de solidarité envers les personnes en difficulté que nous tâchons d'accueillir et d'aider, que j'essaye de rédiger cette lettre aujourd'hui. Lieu d'accueil et de soins, la péniche L'Adamant propose un cadre d'accompagnement hospitalier bien différent de nombre d'autres lieux qui reçoivent les personnes en souffrance psychique. Il se définit et se présente comme un lieu ouvert au partage, autant des pratiques que des idées, que des histoires de vie accidentées des personnes qu'il fréquente. Les relations et les interactions qui s'y déploient sont riches et de toute évidence plus humaines que ce que j'ai pu connaître auparavant. On héberge en ce lieu les créativités et les imaginaires. On y convie aussi les personnes qui la déploient à titre professionnel, ce à tout instant de l'année. C'est beau, L'Adamant. Hélas, en tant que père aidante et artiste, personne engagée et militant pour défendre les droits des personnes souffrant de troubles psychiques, et en tant que personne handicapée, mes tentatives d'intégrer l'équipe de L'Adamant et ainsi participer à son fonctionnement particulier et atypique n'ont pu aboutir. Je me dois de reconnaître, avec déception et amertume, la nue réalité des pratiques qui demeurent figées. Si la singularité du fonctionnement d'un tel lieu de soins a intimement motivé mon envie d'y travailler, la banalité des usages du pouvoir et la distribution fictive des possibilités d'initier des projets et de les partager, l'opacité, sinon une forme d'hypocrisie qui régit le quotidien sur la péniche, aux antipodes de la transparence et de la sincérité, me conduisent épuisée et infiniment triste à vouloir définitivement interrompre cette expérience professionnelle. Il apparaîtra bien peu convaincant de reléguer les difficultés témoignées en poste à la proportion de mon temps de présence sur L'Adamant, comme cela a pu être aisément avancé par mes supérieurs hiérarchiques, notamment au vu du nombre très important de projets et de propositions que j'ai pu amener sur ces plages temporelles, et bien en marge de celles-ci depuis plus d'un an, ce que l'équipe et ses mêmes supérieurs me reconnaissent d'ailleurs. Force d'initiative, ce tout au long de mon activité sur la péniche, ainsi que destinataire de propositions ou de validations de propositions proférées par mon cadre hiérarchique, j'ai été successivement confrontée à des refus plus ou moins verbalisés, sinon à l'oubli de nombreuses des propositions que j'avais pu faire, tantôt noyées dans le flow de nombreuses activités et sollicitations extérieures propres à ce lieu, tantôt écrabouillées par des projets portés par des voix plus incisives.
Rayon de soleil.